Oui, c'est jardin suspendu, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher, et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bonjour et bienvenue dans les jardins suspendus cette semaine encore pour partir à la recherche d'Olivier d'Ancône et ce jusqu'à l'été qui approche à grands pas. Après, les jardins se refermeront définitivement. Olivier d'Ancône a vécu probablement au 5e, 6e siècle de notre ère, naturellement, puisque c'est mon saint patron, originaire peut-être d'Ancône, peut-être de Dalmatie. Nous ne savons même pas quelle langue il parlait. Et se demander dans quel monde, pour lui, il vit, ce n'est pas si simple. Évidemment, à l'époque d'Olivier d'Ancône, la figure de l'univers, c'est le système solaire, mais avec la Terre au centre. Olivier d'Ancône pense que sur sa petite planète sphérique, déjà dans son esprit, il occupe avec cette petite planète le centre d'un univers créé ex nihilo par Dieu. Un univers fini, clos, c'est-à-dire pas vraiment un univers, mais un cosmos, un monde organisé avec les différents éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, parfaitement organisé avec une sphère supérieure avec des étoiles fixes et puis quelques planètes qui tournent autour de la Terre mais évidemment pas autour du Soleil. Ce monde organisé, ma foi, connaît le bien, connaît le mal. Olivier d'Ancône sait certainement à peu près quelle idée il est bon de se faire sur ces questions. Il n'a pas été canonisé pour rien. Il est effectivement supposé être un confesseur de la région d'Ancône, apprécié vraisemblablement pour ses conseils spirituels, bien sûr. On peut imaginer qu'il était aussi bon conseiller en matière médicale. À ce moment-là, il était probablement connaisseur de la médecine de Galien, qui est la médecine qui suit exactement celle d'Hippocrate, le médecin athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est une médecine qui gère les humeurs du corps, qui sont en rapport avec les quatre éléments. C'est une médecine qui cherche à rétablir en toute chose des équilibres qui ressembleraient aux équilibres même du monde habité par Olivier d'Ancône. Et il a probablement des moyens de soigner, et ces moyens sont probablement, genre, toujours évidemment conditionnels, des moyens, la phytothérapie. En quelque sorte, il connaît les plantes parce qu'il connaît le Dioscoride, un botaniste pareil de l'Antiquité tardive, qui a répertorié des centaines de plantes avec leurs propriétés médicinales. Voilà un Olivier d'Ancône armé pour vivre dans un monde naturellement organisé mais humainement dans le plus grand désordre.
Keep things alive. Every border was dancing in the moonlight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody was dancing in the moonlight.
Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
Everybody's
dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight.
Durant mes études d'histoire des sciences et des idées en général, j'ai évidemment eu maintes fois l'occasion de rencontrer, alors en chair ou en os, ou alors simplement à travers les livres, les classiques de l'histoire des sciences et l'histoire des idées. Parmi ces classiques, et incontestablement, Alexandre Coiré est parmi ses œuvres les plus célèbres, les plus intéressantes, que je suis d'ailleurs en train de relire pour me souvenir à quel point c'était bon. Eh bien, il y a Du monde clos à l'univers infini, justement. Dans ce livre, Alexandre Coiré tente de décrire la révolution qui s'est opérée dans l'esprit humain quand nous avons compris que la Terre n'était pas au centre du système planétaire, mais au contraire que c'était le Soleil qui occupait cette place, une sorte de décentrement assez étonnant, paraît-il. Enfin, il y a de la poésie qui parle de ça, et les gens finissaient par ne plus savoir à quel Soleil il fallait croire, celui qui était au centre ou celui qui tournait autour de la Terre. À l'intérieur de cette révolution, il y en a une autre qui est en quelque sorte contenue, c'est que tout à coup, le monde perdait son unité et son ordre. On se retrouvait dans un monde infini, sans limite, dans lequel finalement notre système solaire n'était qu'un système solaire parmi une infinité de systèmes solaires. Ça perdait quand même beaucoup de son intérêt. Voilà. Alexandre Coiré. Maintes et maintes fois, en étudiant l'histoire de la pensée philosophique et scientifique du XVIe et du XVIIe siècle, elles sont en effet si étroitement entremêlées et liées ensemble que séparées, elles deviennent incompréhensibles, j'ai été forcé de constater, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant moi, que pendant cette période, l'esprit humain, ou tout au moins l'esprit européen, a subi ou accompli une révolution spirituelle très profonde, révolution qui modifia les fondements et les cadres même de notre pensée, et dont la science moderne est à la fois la racine et le fruit. Cette révolution, ou ainsi qu'on l'a appelée cette crise de la conscience européenne, a été décrite et expliquée de plusieurs manières différentes. Ainsi, bien qu'il soit généralement admis que le développement de la cosmologie nouvelle, qui remplace le monde géocentrique des Grecs et le monde anthropocentrique du Moyen-Âge par l'univers décentré de l'astronomie moderne, a joué un rôle de toute première importance dans ce processus. Certains historiens, s'intéressant principalement aux implications sociales des processus spirituels, ont insisté sur la prétendue conversion de l'esprit humain de la théoria à la praxis, de la scientia contemplativa à la scientia activa, qui transforma l'homme de spectateur de la nature en son possesseur et maître. D'autres ont vu son trait le plus caractéristique dans la sécularisation de la conscience, sa conversion des fins transcendantes aux buts immanents, c'est-à-dire dans la substitution au souci de l'autre monde de l'intérêt porté à celui-ci. D'autres encore ont fait valoir le remplacement du schéma téléologique et organismique de la pensée et de l'explication par le schéma causal et mécaniste conduisant finalement à la mécanisation de la conception du monde si apparente dans les temps modernes, surtout au XVIIIe siècle. Des historiens de la philosophie ont mis l'accent sur la découverte par l'homme moderne de sa subjectivité essentielle et sur la substitution qui en résultait du subjectivisme des modernes à l'objectivisme des anciens. Des historiens de la littérature nous ont décrit le désespoir et la confusion que la philosophie nouvelle apportait dans un monde d'où toute cohérence avait disparu et dans lequel les cieux ne clamaient plus la gloire de l'Éternel. L'avant-dernier jardin suspendu se referme. Je remercie Landy Unger de nous avoir choisi Dancing in the Moonlight, The King Harvest Single 1972. Je remercie enfin et surtout Sylvain qui a réalisé ça depuis je ne sais pas combien de temps. Merci Sylvain. Ciao, ciao.